Je vais pas me poser de questions privées en aparté après le cours. Bien, d'une façon générale, parce que quand j'ai fini le cours, je suis fatigué. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais ils viennent me poser des questions, comment on appelle ça, personnelles.
Non,
peu importe, vous avez compris. Alors si vous avez une question à poser, posez-la dans le cours, vers la fin du cours, mais que ça concerne le sujet. Prenez-vous vers votre main. J'ai bien vu. Sur mon bureau, j'ai un micro de l'autre de la ICRA. Et il doit y avoir ou à côté ou dans la première page ma feuille de référence. Si tu veux. Tu vas voir là-bas. Bien. Non, non, je l'ai, ça va. Non, je ne l'ai pas. Alors écoutez, je vais essayer d'aborder deux sujets dans la paracha. D'abord, tout au début, le premier enseignement de Rashi sur les lois concernant l'impureté au moment de la naissance. Et puis, le deuxième sujet concernera les dispositions de la Torah concernant le diagnostic du Kohen sur les atteintes de lèpre. En fait, c'est ainsi qu'on a l'habitude de traduire Tzaraat. Mais ce n'est pas évident que ce soit la lèpre telle qu'elle est connue maintenant. Dans tous les cas, il s'agit d'une affection biologique. Je pense qu'on aura l'occasion, si je peux venir la semaine prochaine, ce que j'espère, d'en parler plus dans la paracha de Metzora. Mais ça commence déjà dans cette paracha, les indications du diagnostic du Kohen, lorsque apparaissent un certain nombre d'affections que la Torah appelle Tzaraat, d'une façon générale, et qu'on traduit habituellement par la lèpre. Alors, laissez le mot de lèpre de côté, il vaudrait mieux, je l'emploie parce qu'on parle français, mais il vaudrait mieux étudier le sens des différents termes qui sont employés pour ces différentes affections. Et je vous conseille d'étudier la préface du Torah Tmima, il y a deux pages, à la paracha de Tazria, qui donne la définition exacte, en hébreu bien entendu, selon le Talmud, de ces différentes affections. Tout à l'heure, quand je traduirai le premier verset que ça concerne, je vais me baser sur la traduction de Vogue, qui est une traduction extrêmement... je cherche un adjectif, c'est plus qu'intéressant ou important, extrêmement précise parce qu'à la fois scientifique et traditionnelle, ce qui est très très rare. Quoique dans les notes de Vogue, il y a plutôt l'accent mis sur des préoccupations grammaticales ou littéraires ou, allez dire, pseudo-scientifiques parce que dans son temps, ce n'était pas tellement dans le même sens qu'on emploie aujourd'hui scientifique par rapport au sujet dont parle le récit de la Torah. Mais il y a là, je crois, et j'ai souvent l'occasion de le remarquer, une clarté de la traduction qui nous permet de mieux comprendre la correspondance des termes hébreux et du français. Je fais une petite parenthèse, la grande difficulté des études juives en français, c'est la connaissance du français. Ce n'est pas tellement la connaissance de l'hébreu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Eh bien, ce sera le deuxième point. Si en cours de route, ma voix s'arrête, et là je demanderai à Pierre de bien vouloir prendre le relais. Alors, on va prendre tout de suite le premier verset avec le commentaire de Rashi, et je vous dirai quelques indications sur le premier thème. Pour ça, nous avons besoin de suivre sur la première page du Midrash qu'on vous a préparé. Tout le monde a le texte ? Alors prenez d'abord le premier verset. Vayaver Hashem le Moshe le mot, ça je ne traduis pas, ça nous prendrait trop de temps. C'est pas une blague. Damer le béni Israël le mot, tout ça demanderait à être traduit et expliqué, mais ça prendrait trop de temps. Ishak Tazria, lorsqu'une femme, suivez littéralement en hébreu, Isha, une femme, et tout de suite on va comprendre qu'il s'agit bien entendu d'une mère, pas d'une femme, dans le sens simple des mots en hébreu. avec comme première étape, si vous voulez, le niveau de l'épouse, Isha en hébreu. Alors, Isha, quitte à Zodiar, une femme, je dis bien une, et pas, il n'y a pas d'article, hein. Tazoviar, lorsqu'il arrivera que Tazoviar. Alors en général, on traduit, il me semble, est-ce que quelqu'un a un livre en français ici? Une traduction en français d'ici? Vous en avez une? C'est laquelle? C'est vague, non? C'est vague ou c'est vague? Bon, peu importe, lisez quand il traduit.
Lorsqu'une femme ayant conçu enfantera.
Voilà. Ben, c'est pas exactement ça. C'est pas ayant conçu. On trouve aussi c'est pas faux d'ailleurs, mais c'est pas très exact. On trouve aussi certaines traductions. Oui, lisez-moi si vous avez vos.
Non, mais c'est ça.
Ça, c'est vos. Et la vôtre, c'est quoi? C'est chapitre 12. Ah, ça, c'est vague. Oui, c'est la même. Oui, on trouve dans la traduction, lorsqu'une femme aura été fécondée. Mais justement, je vais me baser sur un verbe pour préciser que le verbe qui est c'est important de bien traduire pour bien comprendre la suite. Et ici, le terme de Zera. Zera, c'est la semence. Je n'entendrai pas de terme plus technique que ça. Alors, quitte à Zveya, lorsque certains traducteurs ont tendance à traduire, mais ce n'est pas exact. C'est-à-dire, c'est faux, mais c'est pas exact, lorsqu'elle aura été ensemencée. Mais, à ce moment-là, Vogue signale qu'il faudrait que ça soit en hébreu Tizara et pas Tazria. Le sens que ça a, c'est faire que la semence soit développée. Est-ce que c'est clair? Alors, Isha Tazria, lorsqu'une femme fera cela, que le Zerar soit fécond. Vous voyez à quel point c'est important de traduire le chat de l'hébreu tel qu'il est pour comprendre par la suite les enseignements qui sont donnés par la Torah et par le P. Et au fond, je pense que c'est tout à l'heure, c'est important aussi d'y insister, la difficulté de l'expression à cause du fait qu'il y a une schizophrénie des traducteurs. Leur monde hébreu et leur monde français n'ont aucun rapport. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. J'ai pas dit que les traducteurs c'est des schizophrènes. Alors en tout cas, Isha Tazria, elle est sujet d'un comportement qui a pour objet de faire que le Zera, dont le sujet était son mari, devienne fécond et qu'il en résulte un enfant. Pour le moment, on n'a pas encore tranché est-ce que cet enfant sera un mâle, un Zahra ou un Nekeva, une femelle, suivant la suite du texte. D'abord, ben Israël, les mots, Isha Tazria, Veyalda, et qu'elle enfante. Vous voyez les différentes étapes. Isha, Tazria, Veyalda, Zahar, un Zahar, Vetamin, c'est Vatiamim, elle sera impure pendant 7 jours, Kimenidas Devota, selon le compte des jours de l'affectation de son impureté, elle sera déclarée impure. Je laisse de côté la fin du verset. On va surtout réfléchir sur ce que le commentaire de Rashi nous embraye directement sur le verset lui-même. Allons regarder Rashi. Amar Rabbi Samuel. Vous y êtes? Et ce Rashi est cité dans le Vaikra Rabba que nous allons revoir dans la source, dans la page qu'on vous a donnée. Keshem, chez Yetzirato, chez l'Adam, Ahar Kol Behema. De même que la formation de l'homme dans le récit de la création. Mais c'est la Yetzira. Tout l'univers a été créé d'emblée, à l'instant de la création. Et ça, c'est la Bria. Il a été ensuite formé, façonné. Yetzira. Alors, de même que la Yetzira, la formation de l'homme, suivez sur le texte, hein? Ahar kol behem ahayavaof et après tout animal, bête, oiseau, bemaas et bereshit, dans l'œuvre du commencement, ken torato, nitparcha, de même son statut est expliqué, est exposé à Har Torat Behemah Yavar, après le statut des animaux, en ce qui concerne l'impureté. Vous avez remarqué dans les parachutes précédentes qu'il y a, depuis le début du livre de Vaïkra, une invitation à la sainteté, Kedusha, c'est l'essentiel du livre de Vaïkra, et puis ça va culminer dans la paracha de Kedoshim, et toutes les lois de distinction, donc de séparation entre le pur et l'impur, qui empêchent l'accès à la sainteté, se déroulent dans toutes les parachutes précédentes, et en particulier dans la paracha de Shemini, qui est précédente de notre paracha de Tazria. Là, il y a un sujet extrêmement important. C'est, je vous dis comme j'ai l'habitude de l'exprimer, mais ça pourrait être dit de différentes manières, une espèce d'étonnement de la part de l'homme de culture générale contemporaine de s'apercevoir que le livre qui parle de la sainteté comme idéal, comme but, comme objectif, Kedoshim Tiyu, Kedoshani, c'est le livre qui contient un nombre considérable de mitzvot, de commandements, de lois concernant l'impureté et le fait de se garder de l'impureté. Là, il faut revenir. Il y a un écho impur, non ? Ça vient de moi ou c'est... Ah, c'est ton faute. Eh bien, il faut revenir en atmosphère, en ambiance de spiritualité biblique pour comprendre, et ce n'est pas le seul sujet, que nous sommes sur un pôle opposé aux évidences de la culture contemporaine, à la culture, disons, occidentale, essentiellement de fait de conscience, je ne sais pas comment dire ça en français, d'évidence immédiate, si vous voulez, de la conscience grecque et romaine. C'est que, dans la culture contemporaine, finalement, le principe dominant, je vous cite, grosso modo, comment c'est dans les évangiles, tout est pur pour les purs. Alors que pour la Torah, tout est impur pour les purs. Et c'est exactement l'inverse. Plus on évolue, plus on avance dans le projet de la sainteté, plus on est vulnérable à l'impureté. Et je pense que c'est suffisamment clair, vous avez compris la différence. Et d'ailleurs, c'est au fond un des critères qui nous permet de distinguer entre l'orthodoxie juive dans le sens étymologique, c'est-à-dire la sensibilité religieuse authentique de la Torah, la voie droite, orthodoxe, je ne parle pas des haredim ou des déviations qu'il peut y avoir, mais l'orthodoxie juive et ce qui pourrait être des hérésies si elles s'instituaient comme telles, que représentent les théologies dans le judaïsme, des libéraux, des conservateurs, des branches analogues à cela. Parce que ce sont des théologies où on adopte, plus ou moins inconsciemment d'ailleurs, les principes d'évidence de la culture gréco-romaine, et par conséquent, on a des problèmes avec énormément de lois de halakha et de la Torah. Et il y a là en tout cas un sujet sur lequel il faut insister, sur ce rapport entre l'impureté et la sainteté, judaïsme et christianisme, en des polarités absolument opposées. Et je donnerai un exemple massif, et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, c'est un petit peu exagéré, mais pas tellement, que toutes ces tendances libérales, conservateurs, tout cela, qui sont en dehors du principe de Torah Mia Shamaï, sont en fin de compte, parfois leur insu, mais parfois très lucidement, christianisantes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Et, d'ailleurs, le Messie des chrétiens n'étant pas du tout en question dans ce problème. Il s'agit de fonds de sensibilité religieuse et culturelle qui est complètement différent. J'emploierai une expression que j'emprunte à Madame Amada Walensi dans les niveaux de l'être, parce que je voudrais éviter de parler en catégorie évolutionniste. C'est encore un autre problème compliqué, mais dans les niveaux de l'être, on s'aperçoit que selon la Torah, plus on avance dans les niveaux de l'être, et plus la précision des lois concernant la séparation entre le pur et l'impur sont plus fortes, C'est clair ce que je dis là ? Je passe du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain. On s'aperçoit que l'homme est beaucoup plus exposé à l'impureté que l'animal, qui est beaucoup plus exposé à l'impureté que le végétal, etc. Et c'est vrai aussi au niveau psychique. Plus on a affaire à un être évolué, mettez ça entre guillemets, plus il est vulnérable aux atteintes psychiques. Je ne vais pas vous dire maladie, mais je ne sais pas si vous suivez ça dans l'histoire de la civilisation. Et on aura peut-être l'occasion la semaine prochaine d'étudier un texte dans la prochaine Metzohar à ce sujet. Je veux dire, pour l'un et encore un sujet pour lui-même, c'est pas n'importe qui peut se permettre des atteintes psychiques. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et on y reviendra des troubles psychiques. On y reviendra la prochaine. Parce que ça se mélange des problèmes de moralité, de méchanceté, de nature humaine, d'instinct, d'inclination, de passion, tout ça, c'est vrai aussi. Mais enfin, c'est l'indice d'un certain niveau d'être que d'être vulnérable plus à l'impureté, à tous les niveaux. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Par exemple, vous avez l'adage talmudique, c'est plus qu'un adage, c'est une loi de la réalité. Gadol mechavero, itzro gadol hemeno. Quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un d'autre, son instinct, et ça vient l'instinct humain, est plus grand que le sien. Il faut s'habituer à cette mentalité de savoir cela. Alors, je ne voudrais pas trop élargir ce problème, mais je voulais vous le signaler, parce que ça nous permet d'évacuer ce paradoxe apparent pour le lecteur de culture occidentale, que dans le livre de Vaïkra, qui est l'exhortation à la sainteté, il y ait une telle accumulation de prescriptions concernant l'impureté. Est-ce que c'est clair? Alors là, il y a un grand danger. C'est d'une façon générale le danger de tout ritualisme, mais surtout en ce qui concerne le rapport à l'impureté, et, ou à ce qui est perçu comme tel, il y a le danger de la maniaquerie, je ne sais pas comment dire ça, la méticulosité qui devient de maniaque, de l'obsession, oui c'est ça. Ça va dans ce sens-là, qui sont des signes cliniques connus d'ailleurs. C'est rare. Il y a énormément de maladies psychiques. Du type être maniaque. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Il y a dans des comportements ritualistes des tendances à la maniaquerie. Et alors, vous savez, quand un juif religieux est maniaque, et il y a un problème. Est-ce qu'il est religieux parce qu'il est maniaque, ou est-ce qu'il est maniaque parce qu'il est religieux? Ça fait deux problèmes. Mais méfiez-vous de ça. Tout ritualisme induit la maniaquerie. Et ça peut parfois prendre des proportions aberrantes. Actuellement, il y a une maladie des postimes israéliens qui, à chaque occasion, nous sommes des pisquets halakha, des décisions rabbiniques ubuesques. Et c'est la maniaquerie absolue. Je vous donne un dernier exemple de ce qu'on a entendu à propos de Purim. Un homme ne doit pas envoyer Michou Armanot à une femme parce qu'il y a un risque que ça peut être mariage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un sac d'un grand poussec. Et comprenez-vous, je ne voudrais pas vous citer, mais vous avez deviné ce qu'il peut s'agir. Et puis il y a des choses encore plus aberrantes. Il y a 2 ans, à propos de Pessah, il y avait une discussion très sérieuse à Bnei Brak si on avait le droit de prendre de l'eau israélienne, parce que peut-être ça vient du Kinneret, et que peut-être dans le Kinneret, un pêcheur, un juif ou arabe, aura jeté une goutte de pain, un morceau de pain. Vous rigolez? Ne rigolez pas. Et alors, en général, ce sont d'autre part de grands hommes, des hommes capables de vertu dans d'autres secteurs de la vie. Alors, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très, très inquiétant, et qui atteint surtout les balais de choix, d'ailleurs, qui sont sensibles à ça, beaucoup plus que les juifs d'origine, j'allais dire, c'est mal dit, hein. Les balais de choix, parce qu'ils sont juifs d'origine. Non, ils sont d'origine, les juifs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il faut se méfier de ça, je referme la parenthèse. Et alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Mais pourquoi j'ai parlé de ça? Ah oui. Il y a une minutie de plus en plus grande. Plus on est élevé en sainteté, et plus on est vulnérable à des atteintes dont d'autres ne sont pas du tout affectés. Je vous donne un exemple dans un autre domaine, mais je veux tout de suite ajouter, de Louis Moussard, c'est pourquoi les gens les plus hauts doivent être les plus humbles, parce que s'ils se prennent au sérieux, ils tombent dans ce travers de la maniaquerie. Enfin, dans les travers qu'entraîne la maniaquerie, qui sont épouvantablement néfastes pour l'histoire d'Israël. Mais quels sont les prophètes? C'est pourquoi dans les yeshivot, on se méfie des livres des prophètes. Lisez les prophètes, lisez le Tanakh, le Nach, et vous allez voir à quel point les prophètes d'Israël étaient avertis de ces dangers-là. Je reviens en tout cas dans les yeshivot. J'exagère, il ne faut pas généraliser. Dans certaines yeshivot, où on se prend pour des prophètes. En tout cas, pour revenir au sujet. Et alors, la Sorachi, nous allons voir le Midrash un peu plus en détail tout à l'heure. La question que je vais poser à travers Rashi, c'est un étonnement dans l'ordre du Maaseh Bereshit, la femme est formée après l'homme. Et voilà que dans l'ordre du statut des différents niveaux d'être par rapport à l'impureté, on met la femme avant l'homme. Est-ce que c'est clair la question? Non. Nous allons voir comment on pourra s'appuyer sur ce que le Midrash dit pour essayer d'avoir un peu une idée du sujet, qui est, ça je peux le formuler de façon simple, que l'identité humaine commence par avoir un projet féminin. Son histoire est masculine et son aboutissement est féminin. C'est complètement hermétique ce que je dis là. Je vous rassemble énormément d'indications de nos sources, mais il y a donc énormément de textes. Des textes pas toujours étudiés, en tout cas avec suffisamment de sérieux, deux qualifications d'Israël, parallèles à deux qualifications de l'humanité, une qui est féminine et une qui est masculine. Il y a Israël Saba et Knesset Israël. Il y a Israël au masculin, Israël au féminin. Et vous devinez déjà qu'on est sur le bord d'un sujet extrêmement important. On n'aura pas du tout le temps ni la compétence d'aller jusqu'au bout, mais c'est un sujet très important qu'on voit qu'il va être indiqué tout de suite par le plus grand de nos commentateurs, mais par allusion, et déjà dans le Midrash. En tout cas, il faut savoir une chose, je vais m'appuyer sur un certain nombre de références, en particulier, et ce n'est pas les références elles-mêmes, puisqu'elles sont connues, et pas du tout, disons, intégrées ou comprises de la manière dont on pourra les lire pour comprendre notre question. Et si à partir de maintenant, quelque chose qui est difficile à comprendre, interrogez-moi, je vous dirai si je peux répondre ou pas, mais je risque de bousculer des catégories un peu trop conformistes du point de vue de l'exégèse un peu pchat des textes. Je vais beaucoup me baser sur les Midrash et en particulier sur la Gemara d'ailleurs aussi, et en particulier sur une note qui consiste à prendre acte que le mot de Isha apparaît dans le texte avant le mot de Ish. Les autres, Ikare Isha, Kime Ish, Mukaha Zot. Il y a toute une dialectique. Les autres, Ikare Isha, Kime Ish, Mukaha Zot. Mais le mot de Isha apparaît avant le mot de Ish. D'autre part, il faut toujours rattacher ce genre d'analyse au grand principe de Sof Mahase de Mahshava Trila. Dans le projet, Isha est à la fois caché, complètement caché par le mot de Adam, Adam, mais va se dévoiler dans l'avenir. Et puis dans le Maasé, ça commence par Isha. Je vous renvoie, pour ceux qui savent lire les textes, au Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim Levolodjin, où il y a une citation de la Gemara qui est très importante. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à Auguste Comte. Je vous dirai rapidement pourquoi. Je ne crois pas que Auguste Comte ait lu le Rav Chaim de Volodine, mais je suis sûr que le Rav Chaim de Volodine n'a pas lu Auguste Comte. C'est que dans la philosophie d'Auguste Comte, il y a une mise en évidence de l'identité féminine qui va jusqu'à la sacralisation et un culte à la femme. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une église d'Auguste Comte. Il y a le buste d'Auguste Comte sur la place de Sorbonne là-bas. Mais il y a d'autres par des chapelles d'Auguste Comte, en particulier en Amérique du Sud, où j'en ai connu une à Paris pendant mes études. Et puis, c'est un culte qui intègre beaucoup aussi des fantasmes de Victor Hugo, mais enfin, qui a pour divinité la femme avec trois prières. Shachir Mitrarabit, alors c'est pour la fille, l'épouse, la mère. C'est très cohérent d'ailleurs quand même. Mais cette intuition de base que il y a une importance particulière à l'identité de Isha. J'ai un peu débordé d'un sujet à l'autre, ce que je voulais dire juste au début, d'abord de mettre en évidence le fait que le mot de Isha apparaît dans le texte avant le mot de Ish, et que cette dialectique Ish-Isha devrait être définie Isha-Ish, et elle est cachée par la dialectique Adam-Ha-Adam. On n'aura pas le temps de revoir en détail tout cela dans les textes, mais je vous le signale quand vous aurez l'occasion de reprendre tous ces textes. Parfois, le texte du Maaseh Bereshit, déjà, nomme le premier homme Adam. Parfois, il le nomme Ha-Adam. Et alors, la différence, de manière très simple, c'est que Adam, c'est l'homme en tant qu'une personne. Ha-Adam, c'est l'homme en tant qu'une identité collective, l'humanité, dans cette personne. Alors, de qui l'Aïcha et Isha ? Est-ce qu'il est l'Aïcha du Ha-Adam ? Ou est-ce que l'Aïcha du Adam ? Et d'où provient le fait que Adam devient Aïcha ? Alors, vous voyez, il y a toute une série d'études là derrière, mais qui ne peuvent se faire qu'avec les sources. Je vous en donnerai quelques exemples en passant. Eh bien, dans mes études d'ethnologie, j'ai remarqué, et encore une fois, je ne veux pas employer intentionnellement le vocabulaire de l'évolutionnisme, que les signes évolutionnistes, dans toutes les espèces, en particulier chez l'homme, commencent à apparaître chez la femme, et ensuite, l'homme les rejoint. Est-ce que ça vous dit quelque chose après vos études ? Bon, par exemple, la différence de forme entre le front et le menton. Il y a, chez l'homme, le front est d'abord fuyant et le menton avancé. J'ai oublié les termes techniques, mais vous comprenez. Alors que dans l'histoire de Prognath, que dans l'histoire de l'évolution, ça s'inverse. Le front devient plus bombé et la mâchoire plus fuyante. Mais ces signes sont des signes féminins de l'évolution à travers la mère qui modifie le père dans le fils. Et là, je me réfère bien entendu aux catégories du ménage. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Vous voyez comment ça se rejoint. Ces deux remarques, je vais le dire quand même, que ça me semble évident, mais c'est vrai, j'ai étudié ça longtemps, c'est que le mot de Isha apparaît avant le mot de Ish, que les signes évolutifs de l'identité humaine apparaissent d'abord chez la femme avant d'apparaître chez l'homme, mais l'homme rejoint et parfois dépasse. Et c'est encore un autre sujet. Ceci est une préparation à une des lignes du Midrash que cite Rachid qu'on va lire. Et en tout cas, et bon, j'enchaîne sur un autre sujet plus rapidement. Nous allons voir que. Bon, je préfère commencer d'abord par lire la phrase du Midrash qui nous intéresse. Alors prenez le Midrash, mais notez d'abord ça. Que notre question, c'est pourquoi la Torah parle de Isha alors qu'elle entreprend de parler de l'homme. Et vous voyez que Rashi a mis l'accent sur le problème. Alors prenez le Midrash. Isha Kitazriya. Hadaou Dirtiv. C'est ce qui est écrit dans Tehilim. Ahor Akedem Tsartani. Littéralement, ça veut dire. En arrière et en avant, Tsartani, tu m'as formé. Il y a un arrière et un avant. Il y a la face et. Comment dire ? On ne va pas dire. On se dit en face. Mais la face, l'arrière. Mais c'est vrai dans l'espace, c'est vrai dans le temps. Dans la Gemara, ce verset est expliqué. Achor Bakedem Tsartani, tu m'as créé dans un avant et dans un après. Non, c'est l'inverse. Un après et un avant. Rattachez ça d'ailleurs à la phrase, c'est un autre sujet, je vais très lié à la phrase classique qui fait d'ailleurs problème, et qui est El Mukdam ou Mocha Batora. Regardez à quel point le sens exact des mots hébreux est important. El Mukdam ou Mocha Batora, en traduit habituellement, il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Mais en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas ce qui vient avant, ce qui a été avancé, et ce qui vient après, ce qui a été plus que retardé, qui a été différé. Hein? Or, ça dit le contraire de ce que le Pshat de la Gemara voulait signaler apparemment, qu'il n'y a pas d'autre chronologie dans la Torah. Or, la phrase dit « El Moudam Moucha Batora » il n'y a pas d'ordre qui ne soit pas chronologique. Il n'y a pas qu'un épisode a été mis avant et un épisode a été mis après. Ça n'existe pas. Donc, l'ordre chronologique de la Torah est absolu. Le contraire de ce qu'on dit d'habitude. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lire Mukdam ou Mukha, mais on traduit comme si c'était Ahor Akedem. Vous avez un peu compris en hébreu? Hein? D'ailleurs, donc c'est tout le contraire. J'avais l'habitude d'expliquer cela d'une autre manière. Sur la parenthèse, sur un enseignement du Gaon de Vilna, qui, sur un autre sujet, enseigne un mot d'explication, Sefer. Alors, je ne prends pas l'exemple du Gaon de Vilna, mais je l'utilise. El Mukdam Umukhar la Torah, Abalba Sefer Torah et Mukdam Umukhar. Parce que la Torah, c'est une vérité absolue, donc éternelle, sans avant et après. Mais l'exposition de la Torah, le Sefer, de la Torah. La révélation de la Torah a un avant et un après. Mais au niveau de la compréhension de la vérité de la Torah comme la vérité, c'est éternel. L'exemple que je prends d'habitude, c'est les mathématiques. On ne peut pas dire qu'un théorème mathématique est avant la vérité d'un théorème mathématique, est avant la vérité d'un autre théorème mathématique, sinon du point de vue de l'exposition, sinon du point de vue de l'enseignement. Est-ce que c'est clair? Et je referme la parenthèse. Alors, Achor Akedem Tzartani. Voilà comment le Kedosh commence par ce verset. Amar Yohanan, il y a un premier enseignement que je ne vais pas utiliser par rapport à Rashi, puisque Rashi va citer juste après, et qui est important. Je vous conseille d'ailleurs d'étudier l'explication de ce midrash dans le Mor HaShemesh, qui vous a été signalé déjà, dans le Mor HaShemesh, qui a plusieurs pages, mais qui mérite d'être étudié très en détail. Moi, je vais me baser plus sur l'explication du Midrash Nofen et de Tsukim. Mais c'est déjà là qu'est le lien entre le commentaire du Mor HaShemesh sur ce verset et ce que dit le Midrash là. Im Zacha, si l'homme mérite, Adam Nochel Shnei Olamot. L'homme hérite de deux mondes, à Olam Hazé et Olam Haba. Adam Dirtib, ce monde-ci, monde à venir, c'est ce qui est écrit Achor Vakedem Tzartani. Achor, pour le monde qui restera en arrière, ce monde-ci, Vakedem, pour le monde en avant, le monde à venir. Rimla, Baditem Din Vacheshbon, il devra rendre compte, passer en jugement. Sheneemar, c'est la suite du verset Vatashet Alai Kapecha, tu as appesanti sur moi ta pomme. C'est aussi dans Job, enlève, retire ta pomme de sur moi, c'est-à-dire le destin du jugement. Très rapidement, c'est relié à la balance de la justice, alors kapecha, ça veut dire lorsque le jugement s'apesantit sur quelqu'un. Kafamuznaï. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman. Béchara, chez Bara Akhazul Baruchu, Adam Arishon, Androgynos Beharo. Lorsque, d'abord, premièrement, on ne voit pas très bien, qu'est-ce que ça vient faire? Achor Vakedem Tzartani avec Isha Kitazulia. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Seulement, déjà, Rashi nous aide à mieux comprendre. Tout ce qu'il y a avant l'homme, c'est le monde de l'animalité. Et tout ce qu'il y a après, c'est le monde qui va, qui commence avec l'homme et qui va au monde à venir. C'est, je ne sais pas comment dire, le lien entre ces deux choses, deux données que je viens de dire, la traduction de ce qu'a dit le Midrash et l'intention du commentaire de Rashi de mettre l'accent alors, sur ce qu'a dit le Midrash sur le verset, eh bien, c'est ce qui sert de base à l'enseignement des commentateurs postérieurs, en particulier du Maharaj Mahavish, qui est très riche à ce sujet. Il y a le monde de l'arrière et il y a le monde de l'avant. Tu m'as créé avec deux profils d'identité, un qui pourrait être tout en arrière, un qui pourrait être tout en avant. Si tu mérites, tu es en avant, si tu ne mérites pas, tu es en arrière. Qu'est-ce que ça a à faire avec Isha et Tazria? Vous avez compris? Et je dirais comment? Qu'est-ce que ça peut suggérer? C'est l'enseignement du récit de la femme de Lot. Elle s'est retournée pour regarder en arrière. Et bien, elle a été statifiée. Si j'ose dire, c'est une blague en français, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit la première fois que j'ai visité les grottes de Stone. Elle a dit, le sel, j'aime. Quoi que l'on soit, ça l'a statué. Enfin, c'est un thème extrêmement important. Le fait, effectivement, de se retourner en arrière, lorsque l'arrière est révolu, eh bien, c'est la statue. Fiction, faction, la statue.
Fication.
Fication. Vous voyez, le français. Alors, on continue. Et bien, Charles, c'est pas grave que je vois la Marichotte, Androgynos Verao. Lorsque Dieu a créé l'homme, pas lorsqu'il a fait la Yetzira, lorsqu'il a créé, lorsqu'il a voulu créer, le projet de la création, c'est le niveau androgyne. Androgyne, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle. Et c'est le niveau le plus haut de l'identité humaine dans son projet. On commence déjà à comprendre que la femme va être intéressée au problème. Et la Yetzira, c'est la séparation des deux côtés. Amar et Shabbish, Béchar et Nivra, au moment où il a été créé, deux partsoufines Nivra. Il avait deux visages, plus que visages. Partsouf, c'est un mot grec qui est passé en hébreu, mais qui veut dire le nom vulgaire. Le partout, faire le partout, ça veut dire. J'ai pas dit, hein. Mais c'est un mot grec qui signifie la silhouette du visage, la physionomie, ce qu'il y a de spécifique dans le visage de chacun. Vous avez une très belle page chez Lévinas à ce sujet d'ailleurs, d'autre part. Mais je préférerais le mot anglais de. Le mot m'échappe, mais j'avais.
Face.
Alors, tout à l'heure.
Ma face.
J'entends pas.
Face.
Non. À propos de. Parce que le mot anglais indique la silhouette de l'ensemble du corps, et pas seulement du visage. Le profil de l'ensemble du corps. Avec un mot qui existe en français, mais en français ça signifie que pour le visage.
Figure.
Figure. Non, c'est ça, hein. Voilà. Là c'est plus exact. Partout. Et ça, c'est pas seulement visage. En hébreu, enfin en hébreu, ça c'est de l'araméen emprunté du grec, on trouve surtout dans le Zohar, mais partout, dans la Kabbalah. C'est l'ensemble de la stature. D'où partoufi uniba, unsao, il l'a séparé, la nesira, c'est la séparation entre, dans la yetzira, il y a une nesira, dit en hébreu, yetzira avec ça des formés, nesira, il sort, séparé. Eh bien, dans la nesira, il y a la trace de ce vaïtzer avec deux yud, la dualité apparaît au niveau de la yetzira. Vaïtzer Hashem Elokim et Adam, chapitre 2, verset 7 dans Maaseh Bereshit, il y a deux yud dans Vaïtzer, alors qu'il n'y a pas deux yud dans le Vaïtzer qui parle de l'animal. Cette dualité de la Nessira, Venarasa Shne Gavim, et il en a fait deux dos, c'est-à-dire il y avait deux faces et un dos commun. Peut-être Siamon, on pourrait le dire, enfin une Siamon totale, quand même. Et puis il les a sciés à moi, et chacun l'un des gens était une entité distincte. Donc au fond, la Nessira, c'est Af Al-Gab, puisque c'est les dos qu'il fallait inventer. Bon, c'est un sujet sérieux, ne croyez pas, parce que je l'ai dit comme ça un peu de façon humoristique. C'est un sujet très important dans la Kabbalah. Et je vous le dis très rapidement, c'est le secret du mur. Le mur a deux faces qui ne pourront jamais se connaître. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé à l'intérieur, il a retourné les deux faces pour qu'elles se rencontrent. Mais il en résulte que ce qui était uni est irrémédiablement séparé. Est-ce que c'est clair, ça? Et que vous voyez ici la notion du tikkun de la bria, qu'est-ce que ça représente? Ce qui avait dedans a été mis dehors, et le tikkun, c'est de remettre dedans ce qui a été mis dehors. Mais il y a l'enrichissement de... Ouais, vous voyez à quel point c'est lié comme thème. Ça rappelle, c'est où? C'est le saut du pire. Du côté, parfois. Gam la zaha, un dos pour le mâle et un dos pour la femelle. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que il faudrait réintégrer la notion de dos à dos à celle de face à face, la relier. Nous allons voir comment ça a été expliqué. Atibunle, et il l'a amené à lui. Vous voyez, tout se passe comme si nous avons là l'image d'un être qui a deux visages. Mais deux visages, ça veut dire deux avant et aucun arrière. Est-ce que c'est clair? La Nessira a séparé les deux visages, les deux silhouettes, deux figures, comme tu dis, oui, et en a fait deux êtres qui étaient dos à dos. Alors il les a amenés face à face. C'est ce qui est dit dans le Ativunle. Vous verrez le commentaire en hébreu. Vaïkar Achat Zira. Vaïkar Achat Misarotav. Et pourtant, objection, le texte nous dit la prime cote. Vous voyez l'objection, la difficulté. Amarle, il a répondu. Misitrohi, il a pris de son côté. Et c'est sur ce que je me base souvent pour dire. Et là, vous comprenez un peu plus profondément. J'ai souvent expliqué ça pour donner un exemple aux ecclésiastiques, enfin aux érudits chrétiens, qu'on ne peut pas lire la Bible si on ne comprend pas l'hébreu et la Torah chevalpée. Je dis un peu sous forme toujours percutante que Dieu a créé le monde de manière normale, sauf la chose la plus importante, la femme. Alors là, ça a l'air d'être une histoire de fou. On rentre dans un hôpital, anesthésie, tardéma, opération chirurgicale, une côte, mais on me l'a laissé. une côte, on se fait une femme. Et alors les gens lisent ça pieusement, sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Vous voyez que c'est du mirage. Il dit, de quoi tu parles? L'être qui était à son côté. C'est écrit, regardez, mais c'est trouvé. Et alors, c'est clair. Alors la blague, qui plaît beaucoup aux chrétiens d'ailleurs, dit, vous voyez, avec cette lecture, Ève, notre grand-mère, était une côtelette panée. Elle était pas encore née. Ça vous fait rire. Qu'est-ce que dit? Et d'ailleurs, il y a une preuve du verset. je sais pas si vous vous rendez compte que la bonne volonté des hommes pieux qui ne connaissent pas la Torah et qui lisent des énormités pieusement. Et ça continue. Je sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle. Bref, les rabbins qui surveillaient les travaux des traducteurs ont dû se marrer. Donc, alors regardez comment la preuve est donnée par le verset. Le mot de Tzela signifie le côté, ou Tzela Mishkan,